Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir, comme tous les lundis, avec Nicolas Domenac de RTL. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste du Figaro Yvan Youfol. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec la correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Non, Allgemeine Zeitung. J'y étais presque cette fois-ci. Ah, d'ici la fin de l'année, j'y arriverai, mais qu'à la vie égale.
Bonsoir.
Et Alain Duhamel qui nous a rejoint. Bonsoir. Bon vent, c'est ce qu'a souhaité le nouveau Premier ministre. Ministre Édouard Philippe à son prédécesseur Bernard Cazeneuve, mais ce soir c'est lui qui est au cœur de la tempête après sa nomination par Emmanuel Macron. Une partie de la droite dénonce un choix individuel, tandis qu'une autre appelle à saisir la main tendue du président, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet, donc qui rejoint 20 autres députés ou personnalités de droite et de l'UDI. Pour le PS, Emmanuel Macron a fait le choix de la clarté. Il faut maintenant donner une majorité de gauche à l'Assemblée. Alors ce nouveau chef de gouvernement, premier acte fondateur de la recomposition ou débauchage sans lendemain, quel est le risque également, puisque vous l'avez beaucoup entendu aussi. Beaucoup d'anciens partis traditionnels disent le problème a cassé toutes ses lignes, il n'y a plus d'alternance possible et la prochaine alternance, ça sera le FN. Qu'en dit-on ce soir sur les réseaux sociaux, Benoît?
Après de longues heures d'attente sur Twitter, on a vu les titres soudain passer de « Qui est le nouveau Premier ministre ?» Édouard Philippe à « Qui est Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre ?» Il a voté contre la loi de transition énergétique, contre le non-cumul des mandats et s'est abstenu sur le mariage pour tous. Un vrai progressiste, grince Françoise, et contre la loi concernant la transparence de la vie politique, ajoute Arnaud, et ses accointances avec les lobbies dont il faisait partie, comme le nucléaire, s'effraie encore Bastien. Un bon point pour ce nouveau Premier ministre. Nous avions voté ensemble, peu nombreux, contre la loi renseignement, note tout de même le frondeur Pouria Amirshahi. Et ne jouons pas les étonnés sur les choix et les convictions du nouveau locataire de l'Élysée, écrit Albert. Pourrait-on juste, pour une fois, lui laisser le bénéfice du doute et espérer que la France s'en sorte enfin, demande Marc. Ok, mais qui connaît Édouard Philippe? Combien de divisions? Quel poids politique? Quelle influence? C'est quand même un pari hasardeux de Macron, répond Nordine. Mais non, il va faire comme tout le monde, il va mettre de l'eau dans son vin. Ça va marcher, assure Evelyne. Si vous n'aimez pas Édouard Philippe, sachez quand même qu'il s'est physiquement empoigné avec Sarkozy un jour, confie Franck. Puis sa décision inspirait d'autres membres de la droite progressiste à rompre avec ce parti, lance même Antoine. Et Renaud Pilade notait que Le Maire, Soler, Riester, Keller, Le Cornu, Fekel ont immédiatement tweeté leurs félicitations. NKM aussi salue ses grandes qualités. D'autres préfèrent ressortir de vieux tweets où Édouard Philippe traitait Macron de banquier technocrate. Ce n'est que l'opportunisme qui l'a guidé vers ce choix, tacle Éric Ciotti. Berti a une autre théorie pour finir. Il a été choisi uniquement pour son style hipster très à la mode, c'est tout.
Nicolas Domenac, un bon coup ce soir d'Emmanuel Macron ou pas plus que ça, selon vous?
C'est plus que ça, pardon. C'est pas seulement un coup parce que ça serait le réduire à un coup de com', etc. Mmh. Je crois qu'il poursuit là, au fond, l'offensive après son succès de l'élection à la présidence de la République. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France sera sauvée. Disait Danton, il faut qu'il persiste dans son offensive contre, au fond, le déclinisme réactionnaire et pour l'ouverture, pour la construction d'une autre Europe. Et donc, au fond, il fallait enfoncer les dernières défenses partisanes. La gauche s'était fait, maintenant la droite, c'est en cours. Alors, on va voir jusqu'où ça ira, mais c'est vraiment une évolution notable dans la vie partisane. C'est la poursuite d'un mouvement fondamental qui s'est engagé, qu'on a relevé ici.
Vous faites sourire, Yvan Youfol. Il faut mieux sourire ou pleurer.
J'aime bien les slogans de Domenac sur le déclinisme réactionnaire. Comme ça, ça ne mange pas de pain. On est tranquille, on se met sur pilotage automatique. Non. Et on ne regarde. Mais en même temps, je ne vais pas vous critiquer parce que je pense qu'il y a une cohérence, en effet, à voir Édouard Philippe rejoindre le président de la République, parce qu'en fait, il y a une même filiation. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait dans cette droite une droite qui n'avait plus sa place, celle de Juppé, celle de tous ceux qui se reconnaissaient précisément dans cette gauche libérale, et que je trouve qu'il y a une clarification souhaitée. D'ailleurs, je ne vois pas très bien, je trouve que ce Premier ministre est plutôt la copie conforme, plus qu'un contre-pouvoir et une cohabitation, la copie conforme de ce président-là. C'est-à-dire qu'il partage avec lui, d'abord, il est énarque, il est adepte de la mondialisation heureuse, il est adepte des accommodements raisonnables, il est adepte de la discrimination positive. Ce n'est pas là qu'on trouvera un contre-pouvoir. Et je pense qu'il peut attirer à lui, en effet, toute cette frange de la droite qui est très mal à l'aise, et c'est là la pierre d'achoppement pour clarifier le débat, très mal à l'aise avec la question de la laïcité. Je crois que ce qui va vite apparaître aujourd'hui, c'est que la ligne de fracture aujourd'hui à travers les grands partis, c'est le problème de la position de la République face à l'islam qui demande des visibilités. Et nous le voyons bien à la manière dont...
Mais c'est le sujet numéro 1, Yvan Youfol, ce soir.
Oui, je pense que ça va devenir le sujet numéro 1, car nous le valons bien. Nous voyons bien comment Manuel Valls a été marginalisé précisément parce qu'il représentait cette conception républicaine et laïque intransigeante de la République. Nous voyons bien comment Malek Bouti n'a pas pu non plus avoir d'investiture parce qu'il représentait également cette intransigeance-là. Non,
c'est peut-être un sujet, mais ça m'étonne que vous mettiez ça comme le premier point dans ce ralliement.
Je pense qu'en non-dit, je pense qu'effectivement, il y a ceci de savoir quel type de civilisation nous allons devoir choisir, ce problème qui n'a pas été posé, et ce type de civilisation, il est dans cette... dans ce choix qui doit être fait, qui n'a pas été débattu, mais qui doit être fait, et qui va être fait par cela, d'une République plus adaptable, notamment à la laïcité.
Je pense que c'est fascinant, on sent ce qui gêne, parce que justement, Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, représente une France optimiste, qui est tournée vers l'avenir, et qui considère effectivement... Bien sûr, il faut faire plus pour l'intégration, pour lutter aussi contre la menace terroriste, mais que ce n'est pas tout et que l'essentiel, c'est que la France retrouve sa dynamique économique et une fois que ça marche à nouveau, tout le reste viendra avec. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a une gêne, effectivement, dans certains rangs de la droite. Et c'est très fascinant. Je crois qu'il faut toujours se méfier des chroniqueurs. Édouard Philippe a fait des excellentes chroniques tout le long dans l'IB. Et quand on les relit maintenant avec la distance, enfin, elle est toute relative, on découvre effectivement tout ce qui le relie. Alors, il était assez vachard sur Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans certaines désignations personnelles au début. Mais sur le fond, on voit bien qu'il représente aussi cette France que nous, autres Allemands, aimons beaucoup, cette France dynamique qui croit. La France est quand même un formidable pays. Vous avez inventé tellement de choses. Vous êtes un pays des start-up. Je veux dire, vous avez tellement d'atouts et c'est dommage de toujours se complaire.
Mais je pense que vous faites une erreur. De mon point de vue, je crois que la droite qui ne veut pas le rejoindre n'est pas une droite qui n'est pas dynamique ni anti-libérale. Au contraire, elle pourrait partager avec Emmanuel Macron ce libéralisme-là et ce dynamisme-là, mais il y a en sous-main, encore une fois, j'insiste là-dessus, et Emmanuel Valls le dit très bien dans le journal du dimanche, il y a en sous-main cette question identitaire qui est toujours prégnante et qui n'a pas été réglée. Moi, je vous l'assure que c'est qui va apparaître, qui n'apparaît pas tout de suite naturellement, mais qui aide à comprendre où vont se placer les gens.
Vous voyez le clivage comme ça, Alain Duhamel, avant de revenir évidemment sur l'hémorragie à droite, entre guillemets, ou en tout cas l'inquiétude d'hémorragie à droite, est-ce que vous voyez le clivage pointé par Yvan Ruffol comme central?
Non, je pense que la question d'une part de l'intégration, d'autre part de l'islam, et puis surtout de la sécurité, tout ça étant lié, c'est une question qui est évidemment essentielle et il ne faut pas tourner autour, mais je pense que dans la phase actuelle, ce qui est d'abord intéressant, il ne faut pas exagérer, ça fait une semaine que Emmanuel Macron est élu et ça fait quelques heures que le Premier ministre est nommé, donc ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre non pas des problèmes dont on connaît l'existence, ce qui ne veut pas dire qu'on les sous-estime, mais dont on connaît l'existence, il faut essayer de voir ce qu'il y a de nouveau et de différent. Et ce qu'il y a de nouveau et de différent, c'est évidemment une tentative pour modifier à la fois le climat, c'est-à-dire passer de la dépression chronique à un optimisme volontariste qui a besoin de démontrer qu'il atteint des résultats, évidemment, autrement il ne durera pas. Et puis d'autre part, de remplacer... en partie, je dis bien en partie, le clivage gauche-droite par le clivage progressiste-conservateur et par le clivage entre Européens et, selon les cas, patriotes ou nationalistes. Je pense que tous ces clivages existent, bien entendu simultanément, mais je pense que celui d'aujourd'hui, celui de ce soir, celui qui est nouveau, c'est une tentative qui n'est pas la première tentative historique de ce point, mais qui est la première qui, au lieu de ressembler, comme ça a été le cas depuis 1960, au lieu de ressembler à des tentatives de débauchage individuel, cherche à créer un mouvement commun nouveau. Bon, je ne sais pas du tout si ça marchera, franchement, je ne crois pas d'ailleurs que quiconque puisse le savoir aujourd'hui, mais disons que c'est nouveau et que c'est intéressant.
On en reparle dans un instant après la publicité. Des éditions spéciales de RTL revient.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Mickaël Aviegel, Alain Duhamel, Yvan Ruffol et Nicolas Demenac. Donc on en parlait depuis tout à l'heure. Donc cette recomposition du paysage politique. D'ailleurs à l'instant, Jean-Louis Borloo dit qu'il signe l'appel des élus de droite à saisir la main tendue donc à Emmanuel Macron. On voit bien que les plaques tectoniques bougent, mais pas mal de leader des anciens partis, j'allais dire, peut-être qu'il ne faut pas employer ce mot-là tout de suite, en tout cas des partis traditionnels, comme vous disiez Alain tout à l'heure, eux disent, attention, le risque, s'il ne réussit pas, la prochaine alternance, puisqu'il aura bousillé les partis, ça sera le FN.
Non, moi je ne crois pas du tout, parce que je pense que la droite va se scinder, qu'en réalité le centre-droit va se rapprocher du centre-gauche. Mais la droite ne va pas disparaître pour autant. Je suis persuadé que les Républicains obtiendront un score tout à fait normal aux élections, et qu'ils auront, je ne dis pas le premier groupe, mais le deuxième. Ils ne sont pas condamnés du tout à disparaître, à mes yeux. Mais simplement, ils seront d'abord plus homogènes. Là, sur ce point, je serais d'accord, au moins avec Yvan Riol.
Yvan Riol.
Non, ce n'est pas ça que je voulais dire.
C'est,
j'essayais d'enchaîner. En même temps, comme dit quelqu'un, en même temps, le Front National lui-même n'est pas simplement sur une pente ascendante inexorable. Ça n'est pas vrai, ça. Il traverse lui aussi en ce moment des vraies difficultés. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 6 mois, on parlait de Marine Le Pen à 30%. Bon, bah, finalement, elle a fait un score très honorable. 21%, c'est très bien. Mais ça n'est pas une dynamique irrésistible. Je pense qu'il y a une espèce de complexe permanent qui est tantôt de surestimer les forces, tantôt d'accepter brusquement des fausses métamorphoses et qui n'est pas tellement d'analyse sérieuse.
Oui, je suis d'accord. Moi, je rends hommage à Macron d'avoir, en effet, fait cette opération de vérité qui était de défaire des couples qui ne s'entendaient plus. Simplement, il a pris là une longueur d'avance parce qu'il a eu une dynamique pour lui, sa dynamique présidentielle, et puis il a la dynamique d'une ouverture vers ceux des Républicains qui avaient envie de divorcer, dans le fond. Et donc, on peut imaginer qu'il en tienne les bénéfices aux législatives, mais je vois qu'il y a une opportunité pour tout l'ensemble du reste de la droite. Et quand j'entends l'ensemble du reste de la droite, c'est-à-dire j'entends également ceux des électeurs qui se reconnaissent aussi au Front National, de pouvoir se rassembler dans un grand parti unifié qui pourrait effectivement se poser en défenseur de ces principes de civilisation que sont le respect de la
laïcité. Excusez-moi, je ne sais pas entendu. Vous dites du Front National et des Républicains ensemble,
similaire. Il faut faire. Donc, il invite à faire un groupe en parallèle et qui invite à ce que l'on. Parce qu'en fait, son programme à lui, c'est de remettre en cause la loi de 1905, etc., et de chambouler tout ce qui a constitué la laïcité.
Ça, je ne comprends pas du tout.
Ah ben, regardez exactement. Il s'appuie sur à la fois Eterna.
Enfin, il nous a dit un peu l'inverse quand on l'avait reçu avec Alain pendant une heure là-dessus. Il nous a dit l'inverse.
Je me souviens de cette interview-là.
En tout cas, quand elle interroge là-dessus, il dit le contraire.
Regardez les rapports sur lesquels il s'appuie.
Très loi 1905, au contraire.
Regardez les rapports sur lesquels il s'appuie, c'est-à-dire le rapport Terranova et surtout le rapport de l'Institut Montaigne qui a fait des propositions qui vont dans ce sens-là. Alors peut-être que les reprendra t elle pas.
Oui,
mais enfin, en tout cas, son entourage est un entourage qui est
Yvan, l'Institut Montaigne, qui est d'ailleurs intéressant. Je ne dis pas le contraire. Mais l'Institut Montaigne, il propose ce qu'il veut. Ce qui engage Emmanuel Macron, c'est ce qu'il lui dit.
Je ne dis pas l'inverse, je dis que son entourage porte ces projets-là pour l'instant.
Nicolas ?
Non, mais je crois que la droite partisane ne va pas disparaître, même si elle a devant elle des tempêtes terribles, parce qu'elle va se déchirer entre ceux qui vont donc rejoindre le mouvement, la modernisation avec Emmanuel Macron, ceux qui vont se diviser en essayant d'aller vers, il n'y en aura pas beaucoup, d'aller vers le Front National, et ceux qui voudront maintenir... Non, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura quand même quelques-uns qui seront tentés, et puis bon, une droite qui va tenter de se redéfinir, mais elle a du boulot devant elle, parce qu'elle est quand même décérébrée, dévitalisée, et au fond, elle a montré une lâcheté terrible avec François Fillon. Et la gauche, alors, parallèlement, eh ben, elle aussi, elle va se maintenir à long terme. Je veux dire, il faut qu'elle se repense, elle, alors elle est carrément naufragée, et elle va déguster un maximum dans les prochaines élections. Je crois que ça ne fait aucun doute. Mais, je veux dire, ce paysage-là qui se recompose, c'est absolument passionnant, et moi, je trouve enthousiasmant, je veux dire, à repenser. Et je crois que Yvan Rioufol a tort de dire que les deux, maintenant qui vont diriger le pays, sont au fond deux énarques, donc ce serait les délégitimer en les présentant ainsi. Je vais revenir à un de mes vieux chevaux de bataille qui ont fait beaucoup sourire ici, mais je crois que ce qui les rassemble, c'est aussi la littérature française. Pardon, ce sont deux passionnés de l'âme française, hein, de son écrit, et donc au fond, ça les réunit et ça les amène à repenser, à s'opposer à une civilisation de l'image qui était la nôtre ces dernières années.
Allez, Michaela,
oui, c'est assez fascinant, effectivement, que Édouard Philippe soit fils spécialistes, deux professeurs de français. Et on sait tous qu'Emmanuel Macron, la figure qui l'a vraiment imprégné, c'était la grand-mère qui était prof de français aussi. Donc ça les réunit effectivement. Et j'ai trouvé que déjà, on a vu aussi bien dans les premiers pas d'Emmanuel Macron, comment il parle, le français qu'il parle. C'est très beau pour les oreilles allemandes aussi. Et c'est quelque chose qui attire l'admiration. Alors, sur le risque du Front National, ce qui est fascinant, en Allemagne, l'expérience montre, on a une grande coalition depuis longtemps, et là, on voit que ce n'est pas du tout nuisible à la droite d'Angela Merkel. Mm-hmm. Elle a montré, on lui avait dit, ça fait monter les extrêmes. Ben, finalement, ça dépend. Une fois que la politique marche, non. Effectivement, quand c'est l'échec...
Évidemment. Il est condamné à la réussite.
On est bien d'accord qu'il est condamné à la réussite.
Surtout quand il y a une succession d'échecs alternés venant de la gauche et de la droite.
Et ce qui les désigne aussi, d'ailleurs, c'est que Édouard Philippe, il a fait son bac à Bonn, donc il parle parfaitement allemand. Et je trouve que c'est un beau signal aussi pour l'Europe.
Alors justement, l'Allemagne, on y va dans un instant, puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron donc, se sont rencontrés cet après-midi. Ils viennent de finir leur conférence de presse.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchière.
On refait le monde à 19h40 ce soir avec Alain Duhamel, Michaela Viegel, Yvan Rioufol et Nicolas Domenac. C'est désormais, vous le savez, une tradition. Comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, Emmanuel Macron effectue son premier voyage présidentiel en Allemagne. Il a été accueilli par Angela Merkel pour un entretien et une conférence de presse, suivi d'un dîner pour le président français. Nous sommes à un moment historique. Nous avons besoin d'un temps de refondation pour impulser une nouvelle dynamique. Ils se disent prêts d'ailleurs à changer les traités si nécessaire. Alors ce couple, Merkel-Macron, vont-ils faire bon ménage? Arriveront-ils à sauver l'Europe? Vous en attendez beaucoup sur les réseaux sociaux, Benoît?
Bah oui, on a eu le couple Merkozy. Aura-t-on droit à Macrel, se demande Ulrich. Hein, l'extrême droite est furax en tout cas. Gigi voit dans cette première visite une soumission inadmissible. Oui, après la passation de pouvoir de Hollande à Macron, la passation de pouvoir de Macron à Merkel, grince Giton. Il va demander l'accord pour ses ministres et récupérer sa feuille de route. Bien sûr que c'est indispensable, manque encore Fabien. En tout cas, c'est pas notre petit jeune qui va apprendre à gouverner à Angela, lance Lulu. À l'issue de ce rendez-vous, ce soir, nous connaîtrons enfin le programme du président, Raimem Andrea. Mais Demo pense que c'est indispensable de relancer cette relation franco-allemande. Et toute l'Europe, il fallait ce nouveau départ, s'enthousiasme Léo. À ceux qui y voient un signe d'allégeance, la spécialiste Aileen Keller rappelle qu'il y a réciprocité de l'autre côté du Rhin. En 2005, quand Merkel vient d'être élue chancelière, elle se rend le lendemain à Paris où elle rencontre Jacques Chirac. Et elle vient de faire un plaidoyer pro-Europe impressionnant. Le tournant est psychologique pour commencer, note Dominique. Moi, je doute que Macron mette Merkel face à ses responsabilités concernant les migrants ou le dévoiement de Schengen, hésite Gabriel. Et François Asselineau de tweeter pour finir que la marionnette française s'appelle Hollande ou Macron, la réponse allemande ne change jamais, c'est Nein.
Allez, vu d'Allemagne justement, Michaela Viegel, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut se jouer quelque chose avec ce nouveau président qui est à Berlin ce soir?
Oui, c'est le quatrième président français qui fait face à Angela Merkel et je pense que cette fois-ci, ça peut être le bon. On vient de parler combien c'est dur de changer ces modes de pensée. Les Allemands ont montré l'exemple. Ils ont tout de suite commencé par dire non mais Macron, il veut que notre argent, il va être dépensier. Donc on a eu plein de titres. Notre cher ami, cher dans le sens coûteux. Et en fait, je pense... malgré tout cela, il y a un vrai momentum. Merkel, elle est proche, je pense, de sa réélection. En tous les cas, pour l'instant, ça prend le chemin. Et si jamais ça marche, ils auront vraiment 4 pleines années devant eux. Et ce sera le mandat pour l'histoire d'Angela Merkel. Donc, elle va vouloir aussi avoir une réussite. Parce que pour l'instant, elle n'a pas imprégné une réussite en Europe. Elle a géré des crises.
Alain, c'est aussi votre point de vue. Le couple gagnant, parce que des intérêts communs.
En tout cas, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de facteurs positifs permettant d'espérer quelque chose. Alors, il ne faut pas dire que ça va marcher, on n'en sait rien. Mais a priori, il y a des conditions qui sont beaucoup plus favorables. D'abord, il ne faut quand même pas oublier que Emmanuel Macron a quand même eu les 2/3 des suffrages exprimés au second tour, alors qu'il avait une posture d'Européen déclarée.
C'est vrai.
Donc, ça faisait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu un candidat candidat français élu en se proclamant européen et en disant que pour lui c'était essentiel. Ensuite parce que ça, c'est un Européen convaincu, ça n'est pas un Européen candide. C'est-à-dire que ce qu'il a proposé dès cet après-midi d'ailleurs à Angela Merkel, ce sont des choses réalisables qui plaisent aux Français. Quand on dit qu'il faut simplifier les normes, ça plaît aux Français. Quand on dit qu'il faut renforcer la sécurité vis-à-vis de l'extérieur, ça plaît aux Français. Et quand on dit qu'il faut essayer de trouver des formes de coopération, y compris financière et budgétaire, à condition qu'on accepte des règles communes et que ça sera au bénéfice de tout le monde, c'est quelque chose que aussi on peut comprendre.
Yvan, finalement, un candidat européen qui a été élu et donc qui s'adresse directement à Angela Merkel pour une nouvelle Europe, peut-être ?
On l'espère, mais il faut toujours avoir naturellement à l'esprit qu'en 2005, 55% des Français avaient refusé cette construction européenne-là. Donc il a été élu un peu par défaut et pas spécifiquement sur ce programme européen, mais oui, en effet, il a élu là-dessus. Donc il faut qu'il sorte de ce statu quo, et il faut qu'il laisse comprendre aux Français qu'ils peuvent en tirer avantage. Mais moi, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste, mais je n'ai pas très bien compris pour l'instant où pouvait se concrétiser son désir de refondation de l'Europe et son désir de relance de l'euro. Je vois encore des mots là-dedans, mais je ne fais pas du tout de procès d'intention, mais simplement, je mets en garde sur le fait que s'il échoue là aussi, là, du coup, le rejet de l'Union européenne qui est quand même dans l'air, même si la France a freiné un peu ce mouvement-là, ce rejet de l'Union européenne risque d'envahir, si ce n'est déjà fait, le reste du continent européen. Donc je pense que les réformes qu'il y a à attendre viennent d'abord de la France elle-même. Je pense qu'il devrait d'abord se préoccuper de faire les propres réformes que l'Europe attend de la France avant de pouvoir exiger de l'Europe elle-même qu'elle se réformasse.
Alors d'une part, il n'exige pas, il propose ce qui est différent et il est prêt à négocier, donc à faire sa part du travail. D'autre part, il faut quand même avoir en tête, parce que ça n'était pas du tout évident il y a un an, que au moment du Brexit, l'idée générale a été, si le Brexit l'emporte, ça va être la débandade dans les opinions politiques européennes.
Vrai.
Or, c'est le contraire
qui s'est produit.
Et pas simplement en France, on l'a vu en Hollande, mais on sait que c'est le cas sur toute l'Europe continentale, y compris là où ce sont des gouvernements eurosceptiques, comme en Pologne ou en Hongrie. Les peuples veulent que l'Europe continue.
Oui, il y a un sursis sur lequel il faut en effet...
Il y a une éclaircie, en tout cas.
Nicolas Domenech.
Non, il me semble... Enfin, moi, quand je suis allé en Allemagne, je parle sous contrôle, là, ces derniers mois, il m'a semblé qu'il y avait aussi une prise de conscience de la classe politique que si rien n'était fait pour faire redémarrer l'Europe, les populismes allaient encore marquer des points et menacer toutes les démocraties. Ça, c'est le premier, à mon avis, élément d'importance qui devrait ressortir dans cette réunion au sommet Merkel-Macron. Le second point, c'est que effectivement, Macron n'a pas été élu par défaut là-dessus. Chaque fois qu'il a parlé Europe, et il en a beaucoup parlé dans ses meetings, il y avait un enthousiasme, il y avait une volonté de repenser, de réespérer avec l'Europe. Alors là où je vous rejoindrai, Yvan Rioufol, c'est qu'en même temps, j'attends avec grande impatience sur quoi ça va pouvoir s'arrimer et se concrétiser, s'articuler. Et j'espère que Macron ne se limitera pas, au fond, à une technocratie européenne dont certains de ses proches sont friands et qu'il va pouvoir partager auprès de l'opinion cette espérance-là très concrètement.
En tout cas, il propose quelque chose de très concret, alors peut paraître anecdotique, mais pas parce que c'est la vie quotidienne et ça va peut-être vous plaire, Yvan Rioufol. À l'instant, il dit « J'ai décidé de restaurer les fameuses classes bilingues. À partir de septembre prochain, les classes bilingues rouvriront en France contre l'avis de Najat Vallaud-Belkacem. » On se souvient qu'elle avait détricoté ça. Ben là, par exemple, voilà, c'est très concret. La présidence Macron, au lendemain, donc...
De même, ce qu'il a proposé tout de suite sur la fameuse directive des travailleurs détachés. Il l'a proposé tout de suite et d'ailleurs, Angela Merkel lui a dit qu'elle était du même avis.
Et les classes bilingues concernaient surtout l'allemand, parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire face à la concurrence de l'anglais, on ne peut pas priver les jeunes Français d'apprendre l'anglais, mais que c'était une façon très, très intelligente de quand même apprendre la langue du voisin.
Allez, avec tout ça passe très vite. On n'a pas débriefé la passation de pouvoir d'hier quand même. Hein.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fogiel.
Avec Alain Duhamel, Michel Aviegel, Yvan Rioufol et Nicolas Domenech. C'était l'une des musiques qui accompagnait la cérémonie d'investiture hier dans la salle des fêtes de l'Élysée, l'ouverture d'Orphée d'Offenbach. Donc, et ça a beaucoup fait rire les invités. Hier, à seulement 39 ans, Emmanuel Macron est donc devenu le 25e président de la République. Une journée où, après un long entretien avec François Hollande, qui lui a souhaité bonne chance, il a remonté les Champs-Élysées bord d'un véhicule militaire, on vous l'a fait vivre hier matin sur RTL. Dans son discours, il a assuré « Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français ». Alors ce sacre républicain, un sans faute ou pas, Yvan Youfol. Déjà, beaucoup éditorialistes s'émeuvent finalement de l'unanimité autour de ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous rompez cette unanimité?
C'est vrai que la flagornerie des commentateurs est un peu agaçante. C'est vrai qu'on l'a comparé, on a vu un profil de premier consul, on a parlé de Périclès, on a parlé de son profil d'aigle, etc. Enfin bon, bref, passons. On connaît ça par cœur. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai trouvé que...
Oui, on était obligés en même temps.
il se pliait avantageusement à cette continuité, sans essayer de faire le malin, je veux dire, sans essayer de faire du modernisme à tout prix. Il y avait même une sorte de théâtrocratie, si je puis dire, qu'il est en train d'inaugurer, avec, parce qu'il d'abord, il est homme de théâtre, et il aime bien ses mises en scène, il étudie... les pas lents, il étudie les regards profonds, les gestes vastes, enfin tout ça est très calculé, tout ça est très professionnel, et tout ça passe dans le fond plutôt bien, donc je n'ai pas grand-chose à en dire. Sinon, peut-être cette petite faute de goutte de son staff de communicant qui n'a pu s'empêcher de lui dire que son costume avait été acheté à 480 € chez Jonas et compagnie, rue d'Aboukir, et que bon, il y avait ce côté anti-bling-bling qui était surévalué aujourd'hui, qui était peut-être le pendant aussi ridicule que le bling-bling de...
Éventuellement, effectivement, Laurent Saïm a tweeté le prix du costume et l'adresse du tailleur, c'était peut-être pas très utile. Comment vous avez trouvé tout ça, vous, Michaela?
Alors nous, qui sommes habitués à la sobriété un peu ennuyeuse, on trouvait ça fascinant, et j'avoue que je trouvais ça drôle que, pour une fois que tout se passait à la perfection, qu'il y avait même ce petit clin d'œil du French Cancan, c'était sympathique et tout, mais il faut trouver un truc qui cloche, et donc je trouve finalement c'était à la mesure du défi qu'il s'est posé, redonner confiance à la France en elle-même. Je trouvais finalement il a très bien réussi, il a même fait douter les commentateurs pour trouver les petits points de pique. Qu'est-ce qu'on peut redire à cette cérémonie assez parfaite quand même?
Non, mais on attendait tous, et les Français les premiers, une resacralisation de la fonction présidentielle. On va pas se plaindre maintenant qu'on l'a eu. Après, au fond, une présidence bling-bling, celle de Sarkozy. Après, une présidence beaucoup trop normale, celle de François Hollande. Et ben, il a mis en scène cette liturgie, ce rituel. Au fond, il y a eu quelques moments particulièrement savoureux, j'ai trouvé, avec un peu de distance, qui était notamment la poursuite de cette marche qui, au fond, partait du Palais Royal pour remonter le tapis rouge de l'Élysée, avec François Hollande qui l'attendait et qui avait l'air de dire « mais il va un peu se dépêcher, celui-là, je veux dire, et j'en peux plus d'attendre ». J'ai trouvé ce moment absolument extraordinaire, parce qu'au fond, en plus, il était comme François Mitterrand qui marchait au-dessus de lui-même, parce qu'il est assez petit, Emmanuel Macron, mais il a paraît plus grand, là, depuis qu'il est président. C'est sa force. Et ça reste. Et enfin, je veux dire, la remontée des Champs-Élysées dans un commande-car. Il l'avait dit lors du débat face à Marine Le Pen. Je veux être le chef, je veux protéger. Bon, bah, c'est ce qu'il a voulu incarner, également. Donc là, il va y avoir des fautes. Il y en a, notamment, moi, je suis furieux qu'il n'y ait pas plus de femmes dans toutes les nominations qu'il a faites jusque-là, etc.
Et de diversité, peut-être, aussi, d'ailleurs. Hein.
Pardon ?
Et de diversité, peut-être.
Bah, aussi. Oui, attendons demain, quand même.
Oui, mais enfin, attendez, les premières nominations au sein de l'appareil élyséen, c'est quand même essentiel. C'était que des hommes, hein, je dirais. Donc c'est quand même très 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 important. Le Premier ministre et le Président de la République, alors qu'il avait laissé entendre à un moment que ça pouvait être une femme, la Première ministre, eh bien non. Donc là, c'est mal barré, hein. Mais bon, peut-être que ça sera redressé effectivement demain, nous verrons.
On verra ça, on vous fera vivre ensemble d'ailleurs sur RTL lors d'une édition spéciale. Alain, cette...
Moi, j'ai trouvé que c'était réussi, d'une part parce que les rites républicains, c'est quelque chose d'important. Les rites comptent autant en République qu'en monarchie, et on a besoin de se retrouver de façon unitaire, pas unanime, mais unitaire dans certaines occasions. Pas trop souvent, pas trop longtemps, mais quand il y a quelque chose de solennel, d'important et de symbolique. L'autre chose, c'est que moi, j'étais très content d'avoir un président qui se comportait comme un président, qui avait une tête de président, qui était capable de marcher sur un tapis sans avoir l'air de se dandiner, qui pouvait parler derrière un micro sans s'agiter dans tous les sens. Je trouvais ça bien, je trouvais ça mieux. Et donc, je me disais, au fond, il ressemble à un président. Eh bien, tant mieux. Et en plus, ce qui est extravagant en France, il ressemble ressemble à un président jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer.
Ça, c'est sûr.
Avec la difficulté, Alain, pardon, juste un tout petit mot très rapide, c'est qu'en même temps, nous, les Français, on a très envie de ça, et on a envie du contraire aussi. Et donc, on va voir venir
bientôt.
On
n'est pas français pour rien. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a en permanence deux Domenac et deux Rioufol, et qui pensent les uns contre les autres, bien
sûr.
C'est
pour ça, en même temps, c'est le bon slogan pour ce président.
En même temps, ça vient de Paul Ricoeur. Ça bouge.
Et en même temps, avec peu d'attractivité, si j'en crois les images, on ne s'est pas précipité sur les Champs-Élysées, on ne s'est pas précipité devant l'Hôtel de Ville.
Il y a eu une bonne écoute à la télévision.
7 200 000
téléspectateurs. Mais dans les rues, le peuple de Paris ne s'est pas déplacé pour le voir.
Et personne ne dit un mot pour terminer, il reste 30 secondes quand même, de Brigitte Macron, qui a quand même.
Non, on est sérieux.
Justement, c'est peut-être.
Bah, écoutez, on va voir ce qu'il propose, puisqu'il veut lui proposer un statut.
Absolument.
Il a dit dans sa
campagne. Et là aussi, c'est clair.
Et elle est très digne, parce que justement, on a tous en tête encore les images un peu bizarres de Valérie Trévala suivant. Et là, elle était très, très digne.
C'était une des fautes plus que de goût esthétique, éthique qu'avait fait Valérie Trierweiler lors de l'intronisation, en étant là trop présente,
elle
en illuminant Ségolène Royal, etc. Donc là, alors que Brigitte Macron, elle était
très élégante, je reconnais qu'elle représente bien la France.
Simplement, elle souffrira beaucoup parce qu'on a voté pour un président et ça sera très violent, c'est toujours très violent pour la campagne du président.
Allez, merci à tous les quatre, merci à Mickaël Aviegel, à Alain Duhamel, à Yvan Rioufol et à Nicolas Domenac. Dans un instant, le flash de 20h avec Quentin Vinet. Et on redémarre la semaine avec Thomas et Sidonie pour la curiosité. Bonsoir les amis.
On est là. Bonsoir Marco.
Salut Marco.
Bonsoir.
Salut à tous.
On va se passionner pour les filles à papa. Papa célèbre. Quelle relation entre Walt Disney, Franco, Orson Welles, Hermann Göring ou encore Victor Hugo avec leurs fillettes. On va tout vous dire et vous verrez que ce ne sont pas forcément les plus gros salauds qui étaient les papounets les moins sympas.
On va écouter ça après le flash de 20h. À tout de suite alors.
Vous écoutez RTL.